parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA, merci Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Jérôme, cette émission, on va parler de relations intimes avec les IA.
Je suis trop content.
On évoquera peut-être même la technosexualité ou les robotics. On bifurquera aussi sur l'IA en éducation et on parlera aussi de l'omnipotence de Microsoft. Alors, quelle est la logique de tous ces sujets ? La logique, c'est celle de notre invité inclassable, éclectique. Et on va voir ça dans un instant. Vous êtes bien sur Cause Commune, la radio des possibles. C'est Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sur les aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cause Commune, que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-au-singulier.fm et sur sa magnifique app iPhone et Android, sur la bande FM à Paris 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Un petit like, un petit abonnement, messieurs, mesdames, c'est la seule récompense de cette équipe. Et en plus, ça manipule les algorithmes. Et c'est cool de manipuler les algorithmes.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Notre invité du jour a une approche transdisciplinaire pour aborder les multiples aspects du développement des services d'IA. Il est canadien, québécois, philosophe de formation, chercheur affilié à l'OBVIA. Alors l'OBVIA, c'est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique au Québec. Il est chercheur en éthique de l'IA, associé au Centre de recherche en éthique, donc ça s'appelle le CRE, de l'Université de Montréal. Il s'intéresse particulièrement aux interactions humain-machine et à l'intégration de l'IA dans la sphère professionnelle et aussi des fois intime, on va le voir, via la robotique ou la réalité virtuelle. Bonjour Dave Anctil.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis Montréal. Je crois que vous êtes notre premier invité aussi lointain.
Ah ben c'est tant mieux, je suis très fier de cela.
Dave, parlez-moi d'IA. Comment vous êtes passé de vos études en philosophie à votre expertise pluridisciplinaire sur l'IA ?
En fait, j'ai toujours été passionné d'intelligence artificielle et d'informatique. Malheureusement, quand j'étais jeune, l'intelligence artificielle n'était pas très intéressante. Alors, j'ai mis de côté cet intérêt-là pour développer une expertise en éthique et en philosophie politique. Et c'est plus tard, lorsque j'enseignais à l'université des cours d'éthique appliquée, où les enjeux technologiques étaient présents, que je me suis réintéressé à l'intelligence artificielle et à l'informatique d'un point de vue recherche, donc autour des années 2007 à 2009. Et depuis ce temps, j'y ai consacré une part grandissante de mon travail. Je me suis formé en sciences des données, en programmation, et je suis très fier aujourd'hui de pouvoir intégrer ce volet-là à mes recherches plus générales sur la société et sur l'être humain.
Bien, on va en profiter de votre expertise pluridisciplinaire. On va aborder toutes ces questions diverses et variées. Je vous propose qu'on commence par les interactions homme-machine. Et quand on pousse un peu la réflexion sur l'interaction homme-machine, on arrive souvent, enfin de plus en plus maintenant, au dispositif d'amis ou de petits amis virtuels. Alors, on connaît plutôt pas mal, parce que c'est un nom qui revient souvent, Replica. Mais il y a aussi le chinois Xiaovoice Virtual Boyfriend de Xiaobing. Et ces applications, quand on se penche dessus, elles ont des centaines de milliers d'utilisateurs, pour ne pas dire des millions. D'après vous, ça veut dire quoi en fait de notre société, ces applications et ce nombre fou d'utilisateurs qui utilisent des IA pour avoir des amis?
D'un point de vue anthropologique, il n'y a absolument rien de surprenant dans ce phénomène. Après tout, on a eu des amis imaginaires depuis les débuts de la civilisation, c'est-à-dire des êtres surnaturels, des anges, des démons, des dieux. Alors, si on y réfléchit d'un point de vue anthropologique, c'est tout à fait naturel pour l'être humain d'accorder une forme d'intelligence consciente à des entités non humaines, notamment à des idoles, à des statues, à des monuments, à des forêts. Alors, les peuples animistes, qui croient encore aujourd'hui que des forêts et des rivières, comme les peuples autochtones du Québec, ont des âmes, ont des intelligences, des mémoires. Pour ces personnes-là, c'est tout à fait, ça fait partie de leur monde, de leur univers, de leur représentation. Alors, de mon point de vue, vue qui n'est pas celui d'un anthropologue, mais celui de quelqu'un qui utilise notamment la psychométrie, la sociométrie, qui utilise les approches scientifiques en sciences humaines pour étudier ces phénomènes-là, c'est quelque chose, en fait, de non seulement prévisible, mais qui répond à des besoins. Alors, si les gens vivent de la solitude oui. et qu'il n'y a pas de possibilité d'interagir avec d'autres êtres humains de manière satisfaisante, alors ils vont se trouver des amis qui sont capables de communiquer avec eux, de les comprendre. Et c'est ce que l'intelligence artificielle contemporaine, notamment grâce au traitement du langage naturel, est capable de faire. Alors, on peut développer des relations parce que nous communiquons, bien sûr, en anthropomorphisant ces systèmes-là. Et cette anthropomorphisation-là crée juste le bon niveau de réalisme pour croire à cette relation-là. Cela dit, la vaste majorité des gens ne sont pas dupes, hein.
Oui.
Ils conçoivent très bien la limite de ces systèmes d'intelligence artificielle, mais ils considèrent qu'ils comblent des besoins, qu'ils obtiennent satisfaction là où ils n'ont pas satisfaction dans leur vie personnelle et intime.
Et d'un point de vue éthique, de l'autre côté de la machine, on peut pas quand même considérer qu'il y a un peu une exploitation de la solitude justement par ces dispositifs.
Alors, au risque d'être un peu provocateur, je dirais que c'est ce que font aussi les religions. Alors, les religions répondent à des besoins fondamentaux, notamment l'angoisse existentielle face à la mort. Ils donnent des réponses qui ne sont pas prouvées scientifiquement à l'effet qu'il existe une vie après la mort. Et bien sûr, cela fait du bien aux croyants qui pratiquent des rituels religieux et la prière et tout ça pour des raisons qui sont associées à leurs besoins psychiques. Alors, c'est un peu la même chose pour les systèmes d'intelligence artificielle qui peuvent combler ces besoins. À la différence que ce sont des entreprises capitalistes qui visent à faire des profits qui les produisent. Alors, effectivement, il pourrait y avoir des abus et on pourrait d'ailleurs estimer qu'il y en a dans le cas de Replica. J'y reviendrai, si vous voulez, juste après. C'est-à-dire que ces entreprises peuvent vouloir miser sur des formes de dépendance, des formes de vulnérabilité pour obtenir une certaine profitabilité. Alors, c'est à la société d'établir des limitations sur le pouvoir que détiennent ces entreprises-là pour avoir des relations préjudiciables, pour offrir un service qui peut devenir préjudiciable.
Oui, parce que...
Je conclue là-dessus, dans la majeure partie des situations, je ne vois pas de problème éthique comme tel, c'est-à-dire si on définit l'éthique du point de vue d'une relation qui serait abusive et préjudiciable, je ne vois pas nécessairement d'abus dans la plupart des situations.
Bon, après, on n'est pas dans une relation totalement spirituelle, on est plutôt dans une relation de grosse drague, parfois avec ces IA conversationnelles amicales ou petite amie, qui peuvent d'ailleurs tourner parfois à la conversation érotique. Et justement, il y a eu un moment fort chez Replica quand ils ont voulu un peu stopper ou limiter les conversations érotiques parce que ça partait vraiment, ça mettait les utilisateurs un petit peu parfois en difficulté, en addiction, non?
Pas vraiment.
Non?
En fait, c'est beaucoup axé sur le cadrage médiatique de ces relations-là, et c'est ce que nos recherches essaient de démontrer. Alors, d'un point de vue sexologique, du point de vue de l'étude scientifique de la sexualité, des besoins sexuels humains, ces besoins-là sont pas comblés chez de nombreux êtres humains qui sont seuls sans le vouloir, notamment parce qu'ils n'ont pas de capital sexuel, faible capital social, qui ont de la difficulté à trouver des partenaires intimes et amoureux. Alors, pour ces personnes-là, quelle est l'alternative?
Oui.
Est-ce qu'on les condamne à vivre une vie sans relation? La société ne se pose pas ce problème-là. Pourquoi? Parce que ça ne semble pas être un problème de justice distributive. Alors, si une personne, par exemple, a des difficultés d'apprentissage, on va considérer que la société a une responsabilité de combler ce déficit d'apprentissage par différentes technologies ou par l'aide de tuteurs spécialisés, parce qu'on croit à l'égalité des chances. Cependant, pour ce qui est des besoins relationnels, affectifs, sexuels et amoureux, on ne considère pas que les personnes désavantagées méritent quelque chose comme l'égalité des chances, ce qui est une injustice dans la société.
Oui, c'est vrai.
Alors, comme on ne peut pas forcer des humains à devenir des partenaires pour des gens qui sont malchanceux parce qu'ils sont moches ou malhabiles dans leur relation, comme on ne veut pas payer des sexologues et des coachs romantiques pour aider ces personnes-là, alors il ne reste que la technologie. Alors, de mon point de vue et de celui de la sexologie, de la technosexualité en général, ces besoins non comblés sont aussi des droits, les droits humains qui nécessitent de combler certains besoins qui peuvent, lorsqu'ils ne sont pas comblés, mener à la dépression, mener à des problèmes d'estime personnelle, à la négligence de sa propre santé mentale et physique. Ça peut être très grave. Alors, ils répondent ces technologies-là, et c'est le cas de Replica, à des besoins réels, des besoins érotiques, des besoins romantiques, des besoins d'amitié, de communication, bref, des besoins intimes.
Et il y a des, vous avez étudié aussi des dispositifs techniques justement pour que on passe de la conversation à des actes plus physiques avec les dispositifs. Alors entre humains potentiellement à distance. Et est-ce que ça existe aussi entre humains et machines, ces dispositifs plus tactiles, plus physiques?
Oui, alors il y a tout un domaine de la technosexualité qu'on appelle la télédildonique. Alors c'est un mot un peu étrange, les gens ils sont pas habitués. Essentiellement c'est en télé à distance et dildonique pour jouets sexuels. Alors il existe bien sûr des jouets sexuels connectés qui permettent à des partenaires humains à distance de pouvoir simuler le toucher direct. Ouais. On peut donc s'exciter, se masturber mutuellement, donc avoir une relation physique à distance, eh bien, de plus en plus, on explore les possibilités que des IA puissent contrôler ce matériel technologique-là pour pouvoir interagir physiquement avec les utilisateurs. D'accord. Alors, c'est encore à l'étape, je dirais, des concepts, des prototypes. Ce n'est pas encore un très grand marché. Les gens préfèrent actuellement avoir des stimulations visuelles via la réalité augmentée ou la réalité virtuelle et pratiquer la masturbation lorsqu'ils interagissent avec des IA. Tout simplement parce que l'immersion, le phénomène de présence est suffisant pour les exciter et combler leurs besoins.
Et puis on se dit que du coup, pour apprendre à l'IA à faire ce genre de choses, il faut lui donner des datasets d'entraînement.
Effectivement.
Et du coup, c'est quand même compliqué ça d'expliquer à l'IA et de lui donner des datasets d'entraînement de ce point de vue-là. Je pense que c'est aussi peut-être ça qui bloque. Mais donc vous confirmez que c'est dans les tuyaux quoi, potentiellement que ça pourrait sortir. Bon, après de manière moins, allez, on va passer un petit peu à d'autres sujets, mais on a aussi j'ai lu pas mal de choses sur finalement aussi. Alors c'est pas des amitiés, mais c'est l'effet coach, l'effet IA coach. Alors sportif, mais dans plein d'autres domaines aussi, c'est-à-dire l'interaction qu'on peut avoir avec l'IA pour s'aider. Alors là, on n'est plus dans le domaine sexuel ou érotique, mais pour s'aider dans le sport, dans la manière de penser, c'est des interactions aussi intéressantes de votre point de vue.
Alors, elles sont très intéressantes, notamment parce qu'elles peuvent miser sur les approches et les technologies actuelles. Afin de procurer des prothèses ou des tutorats et ou des formes d'encadrement personnalisées aux personnes. Mmh. Je m'explique rapidement. Alors, on utilise des modèles linguistiques comme les LLM comme GPT-3, GPT-4 et compagnie pour essentiellement les fine-tuner, pratiquer. Donc, on les professionnalise ou on les spécialise avec des jeux de données qui sont liés par exemple, à la psychologie du développement, à la psychologie du coaching et tout ça. Et on les teste avec des utilisateurs pour avoir une rétroaction, ce qui nous permet de procurer aux individus un tuteur personnalisé qui peut combler leurs déficits ou leurs difficultés comme telles. Alors, dans le domaine des relations, ça devient effectivement, il y a un marché grandissant pour ça. Il y a d'ailleurs des startups qui ont été financées à cet égard pour aider les personnes qui ont des difficultés relationnelles, des difficultés communicationnelles à devenir meilleures. Et pourquoi c'est possible? Parce que la reconnaissance vocale et la génération, donc la compréhension du langage, le fait que nos systèmes d'IA sont capables de comprendre le langage naturel, fait en sorte qu'on peut avoir une rétroaction immédiate. Pour l'apprenant, il peut immédiatement avoir une rétroaction comme s'il avait un tuteur humain, compétent, expert, pour lui donner des conseils et l'évaluer, mais aussi l'encourager, le motiver à tenter des expériences. Alors, ce sont des technologies qui vont apporter oui. beaucoup, beaucoup d'aide aux personnes qui ont ces carences et ces difficultés, ces manques, mais aussi pour des personnes qui voudraient juste se perfectionner, s'améliorer dans la vie.
Et donc, c'est pas tant des technologies qui vont les enfermer, plutôt que c'est plutôt des technologies qui vont les entraîner à s'ouvrir peut-être vers l'extérieur. Écoutez, merci beaucoup pour cette première partie sur les interactions homme-machine très poussées. Je vous propose, Dave, qu'on fasse une pause musicale. Je crois que Garlaban, notre programmateur musical, nous a fait une petite blague aujourd'hui. Il sait qu'on va sans doute parler de Microsoft après la pause. Alors, il nous propose d'écouter tout simplement « Musique d'ordinateur » de Philippe Catherine. Merci Philippe Catherine, merci Garlaban. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré à la fois sur l'IA intime, la technosexualité, le monde du travail, Microsoft, car nous sommes avec Dave Anctil, spécialiste transdisciplinaire de tous ces sujets autour de l'IA. Dave, merci déjà pour cette première partie consacrée à vos connaissances et à votre expertise sur les interactions homme-machine. J'avais envie un peu de vous interroger aussi sur votre travail de professeur, en fait, qui essayait d'expliquer l'IA à des étudiants. Vous avez testé quand même profondément ChatGPT, j'ai vu ça, et puis notamment, vous lui avez montré une photo d'un tableau de cours plein d'équations mathématiques, et vous lui avez demandé de vous expliquer le cours, et qu'est-ce qui s'est passé, du coup?
Il a été extrêmement efficace pour le faire. Alors, lorsque GPT-4 Vision, alors la Vision, c'est une couche supplémentaire qu'on ajoute au système algorithmique très complexe, en fait, hein, multidimensionnel d'un système comme ChatGPT. Alors, lorsqu'on lui a ajouté la Vision, j'étais extrêmement curieux de voir ce qu'il était capable de faire, de reconnaître le formalisme des mathématiques, hein, qui est absolument essentiel pour des raisonnements beaucoup plus avancés, et aussi bien sûr l'analyse d'images. Et c'est absolument spectaculaire ce que révèle de la capacité du modèle de faire des associations entre les connaissances, la description de ce qu'il perçoit, de ce qu'il voit. C'est vraiment impressionnant. Et c'est aussi une vraie mesure de l'intelligence multimodale, hein, c'est-à-dire la vraie capacité du modèle à voir le monde en plusieurs dimensions et pas uniquement dans la dimension du langage, de la syntaxe et de la sémantique, mais aussi de comprendre la syntaxe et la sémantique des couleurs, des textures, de la structure du monde et de la réalité. Et c'est là que finalement on approche d'une vraie forme d'intelligence. C'est quand un système d'IA est capable de faire cela.
Oui, et du coup, ben c'est ce que vous voyez. On s'aperçoit qu'il est très pédagogue aussi dans sa capacité à réexpliquer ce qu'il voit et ce qu'il comprend. Et ça, donc vous le montrez régulièrement à vos étudiants. C'est quoi en fait le meilleur conseil qu'on peut donner aujourd'hui à un élève ou à un étudiant qu'on met face à ChatGPT ou à un élève de ce type-là pour qu'il en fasse un bon usage? Quel type de conseil vous leur donnez à vos élèves?
Alors, je vais vous surprendre aussi cette fois.
Dites-moi, dites-moi.
Ma réponse devrait vous surprendre parce qu'elle est assez contradictoire avec le consensus mou qui existe actuellement dans les institutions d'enseignement supérieur. Ouais. Le premier conseil que je donnerais à un jeune, c'est de ne pas écouter ce que les profs disent en général sur le sujet. Pourquoi? Parce que malheureusement, notre société a commencé beaucoup trop tardivement, dans l'urgence, à s'intéresser au phénomène de l'intelligence artificielle et à quel point l'intelligence artificielle allait profondément transformer notre manière de travailler et donc d'étudier à l'école. Alors, moi, j'arrive avec une perspective qui était vue comme tout à fait ridicule il y a seulement 3 ans.
Oui.
C'est ce qu'on appelle l'intelligence hybride, hein, c'est-à-dire que de plus en plus, on va utiliser l'IA pour combiner nos forces et pour réduire nos limites respectives. Hein. Les systèmes de cognition artificielle ont des limites, mais notre cognition humaine a aussi des limites. Alors, la cognition hybride ou l'intelligence hybride, c'est la collaboration de ces deux systèmes d'intelligence, naturelle et artificielle. Alors, moi, j'apprends à mes étudiants à le faire, c'est-à-dire à comprendre les limites et les forces de ces systèmes d'IA, mais aussi de mieux comprendre leurs propres limites et leurs propres forces pour réfléchir avec ces systèmes-là. Un peu comme on le fait à l'école aussi, lorsqu'on veut apprendre aux étudiants à travailler en équipe. Et c'est fondamental au travail. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est-à-dire la collaboration de plusieurs intelligences ensemble avec des processus qui augmentent leur optimalité, hein, l'optimisation du processus, de la structure du travail, des fonctionnements du travail. Alors, moi, ce que je veux faire avec les étudiants, ce que j'essaie de faire, c'est d'intégrer l'IA dans ces processus-là. Alors, c'est pas du tout bien vu par plusieurs collègues qui voit essentiellement l'IA comme un simple outil et non comme un agent, mais aussi comme une menace à l'éducation et ce que ça représente l'éducation elle-même. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Les étudiants préfèrent avec raison avoir un bon professeur qui est charismatique, sensible. Encore faut-il être charismatique et sensible, qui est un bon communicateur. Ils préfèrent encore travailler avec d'autres êtres humains. Et ça ne va pas nous changer comme tel. Par contre, il est évident que nos processus d'évaluation qui datent du 19e siècle devraient être revus de fond en comble pour préparer nos étudiants à travailler avec des systèmes informatiques en continu, ce qu'ils font déjà depuis des décennies
mais les
profs et la technophobie ambiante en ce qu'on appelle ici le déficit de littératie numérique fait en sorte que les enseignants en ont pas pris conscience suffisamment. Les étudiants utilisent depuis des années, par exemple, la traduction automatique pour plagier des passages en anglais vers le français pour les étudiants francophones. Et c'est le cas aussi avec différents outils et algorithmes qui permettent de modifier et de rendre intraçable une source qu'on a paraphrasée automatiquement. Alors, les étudiants cherchent depuis toujours, comme n'importe quel être humain, des solutions pour diminuer le temps et les efforts pour accomplir une tâche. Alors, si on ne leur apprend pas à bien utiliser ces systèmes-là, alors ils vont continuer à l'utiliser comme substitut plutôt que comme partenaire d'apprentissage.
C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Vous leur apprenez finalement à utiliser l'IA comme des partenaires d'éducation et des partenaires d'apprentissage. Et il y a des usages qui vous ont surpris. Là, on recevait dernièrement Étienne Mineur, qui est un designer, qui a des étudiants également, et qui a été surpris de voir tout d'un coup revenir des modèles de crochet à travers l'IA, des étudiants qui faisaient du crochet, qui faisaient des modèles en crochet, donc une vieille technique de couture finalement. Est-ce que vous avez vu des choses comme ça un peu surprenantes, un usage qui vous êtes dit « mais ah ouais, effectivement, ça j'y avais pas pensé ».
Je dirais que la chose qui me surprend le plus, c'est lorsque les étudiants utilisent la vision. Mm-hmm. Et là, on voit que leur cerveau n'est pas du tout comme le mien. Ils ont grandi. Moi, j'ai 45 ans, donc j'ai grandi avec le numérique. Donc, j'ai eu ma première connexion Internet à l'âge de 17 ans en 1995. Et eux, ils ont grandi, hein, ce sont des natifs du numérique, comme on les appelle ici. Mm-hmm. Donc, ils travaillent beaucoup avec la caméra de leur téléphone. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'essentiellement, ils vont prendre en photo les éléments d'information, soit en faisant un screen capture ou en photographiant, par exemple, un tableau d'un professeur ou une page d'un manuel, et ils vont intégrer ces éléments visuels-là. Plutôt que d'essayer d'instruire la machine manuellement, ils vont raccourcir le temps que cela prend pour instruire correctement, pour faire un bon prompt, la machine. Alors, ils vont essayer de prendre des raccourcis en utilisant beaucoup l'image. Oui. Alors ça surpris parce que c'est pas du tout le réflexe des gens de ma génération.
Oui, c'est encore le moindre effort finalement. C'est encore le moindre effort par rapport à l'outil. Mais c'est très bien, vous avez raison. Et c'est pour ça que les fonctions comme vision, notamment, marchent bien. Je vous propose qu'on passe dans la phase conclusive de cet entretien, notamment sur les aspects liés à Microsoft. Vous dites, et je trouve ça très intéressant, que Microsoft, paradoxalement, est l'acteur le plus présent, mais aussi finalement le plus oublié de l'univers de l'IA, à côté des Meta, des Google, des OpenAI et autres joyeusetés. Finalement, il passe un peu pour le gentil grand-père de l'informatique inoffensif, celui qu'on fait un petit peu en bureautique, quoi. Alors qu'en fait, bah, il investit massivement dans l'info-nuage, comme vous dites au Québec, et qu'il est actionnaire majoritaire d'OpenAI. Comment vous voyez un peu l'action de Microsoft aujourd'hui dans le domaine de l'IA, et c'est quoi votre perspective critique par rapport à ça?
Deux aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect, je dirais, géopolitique et macroéconomique. Et le deuxième aspect, c'est ce que Microsoft et d'autres, mais surtout Microsoft, va faire au travail et aux compétences professionnelles.
Oui.
Donc, sur le premier point, je vais essayer d'aller très rapidement. Microsoft a maintenant une valeur boursière équivalente au PIB du Canada. Alors, je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire en termes de taille. Alors, il pourrait être un membre du G7, c'est ce que ça veut dire. Alors, la puissance de Microsoft, on ne la réalise pas si on ne s'intéresse pas à la puissance informatique. Alors, nous sommes dans un monde d'informatique distribué, c'est-à-dire que de plus en plus, l'informatique migre des ordinateurs personnels vers des centres de serveurs qui vont alimenter les fonctionnements de l'Internet, bien sûr, mais de tout ce qui est informatique ou presque. Alors, ça veut dire que Microsoft est un des acteurs principaux. Hein. D'ailleurs, les projets de construction sont absolument...
Fantastiques, c'est énorme.
Je n'ai pas d'adjectif.
Oui, oui.
Les investissements de Microsoft sont de plusieurs centaines de milliards de dollars par année dans les prochaines années. Alors, Microsoft, donc, va contrôler essentiellement l'informatique distribuée, hein, la disponibilité de la puissance de calcul pour tout ce que nous allons faire. Bien sûr, il y a des concurrents, AWS en particulier, Amazon, hein, et d'autres concurrents européens, bien sûr.
Mais il va aussi se retrouver sur notre ordinateur aussi, avec Copilot, toute cette puissance va être mise dans notre ordinateur de travail.
Exact. C'est là que j'arrive au deuxième point. Alors, si on comprend l'expansion de Microsoft, hein, la question macroéconomique, ensuite, il y a un deuxième facteur, c'est-à-dire que nous sommes dépendants des services logiciels de Microsoft. Alors, ici au Canada, c'est environ entre 93 et 97 % de nos organisations, privées, publiques, parapubliques, qui fonctionnent dans un environnement Microsoft. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Microsoft va aussi dicter la manière dont nous allons travailler avec l'IA dans les prochaines années. Alors, Copilot est la première initiative de ce genre. Qu'est-ce que c'est Copilot? C'est essentiellement le modèle d'IA GPT-4 de OpenAI qui est distribué dans les services logiciels de Microsoft, dans la suite Office 365, c'est-à-dire dans Excel, Outlook, Teams, Word et compagnie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la vision de Microsoft va dicter la manière dont nous allons travailler avec l'IA, ce qui n'est pas du tout un destin. On pourrait faire des choix de société complètement différents. On on pourrait complètement décider d'utiliser du logiciel libre, on pourrait complètement décider d'utiliser des solutions nationales d'IA pour nos solutions de travail afin de ne pas donner cette position hégémonique, pour ne pas dire totalitaire, à Microsoft. Mais je ne sais pas où vous en êtes en Europe sur ce débat-là exactement, mais ici, au Canada, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. Il y a très peu de gens qui accordent de l'importance à la souveraineté en matière d'intelligence artificielle.
Alors, on a beaucoup d'acteurs, nous, de notre côté, hein, qui sont sur l'open source, notamment sur cette centaine de causes communes de la radio. On a beaucoup d'acteurs qui viennent prêcher pour l'open source et qui viennent prêcher pour, effectivement, des solutions souveraines, nationales. Et effectivement, on est attentif à tout ça. Et moi, je suis content que vous ayez pu l'exprimer aussi au micro de Parlez-moi d'IA. Je voulais vraiment que vous puissiez le dire, Dave, parce que je sentais qu'effectivement vous prêchiez et vous évangélisiez au Canada sur ce sujet et que c'est aussi valable quand même en France. Il faut quand même qu'on se le dise. Voilà. Bon, malheureusement l'émission est déjà finie. C'est l'heure de conclure. Et je vous remercie beaucoup, hein, d'avoir joué le jeu de partager sur tous les sujets qui sont les vôtres en si peu de temps, parce que c'est le jeu de la radio. Merci encore, Dave, pour tout ce partage.
Ça m'a fait plaisir.
Restez sur 93.1 sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains les émissions de Cause Commune. À bientôt.